Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
Peut-être avez-vous vu le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio. Eh bien, voici l'histoire vraie qui a inspiré ce film. L'histoire de Jordan Belfort, l'un des plus grands escrocs de la bourse américaine. Un personnage fascinant par son bagout qui avait fait de l'avidité le moteur de sa vie. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant d'abord sur son autobiographie, quoiqu'elle soit un peu, beaucoup même, édulcorée. Et sur un documentaire produit par Nicolas Vallaud et réalisé par Adeline Desson, Jordan Belfort, le loup de Wall Street. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Une belle histoire aux États-Unis. Ça doit forcément illustrer le rêve américain. L'idée qu'on peut partir de rien et devenir maître du monde. Et avec Jordan Belfort, on est parfaitement servi. Car de fait, quand Jordan vient au monde, en 1963, dans le Bronx, le quartier le plus pauvre de New York, rien ne le prédestine à être riche. Le Bronx, dans ces années-là, c'est la misère à tous les coins de rue. Le quartier est miné par les gangs et par la dope. Sale endroit pour grandir. Ses parents, Léa et Max Belfort, ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ils sont comptables tous les deux. Petits comptables. Ce qui fait que le soir, à table au dîner, ça parle crédit, débit, marge, bénéfice. Et ça, ça a compté, c'est sûr, dans l'intérêt que Jordan a développé pour l'argent. À la fin des années 60, inquiets de voir leurs enfants grandir dans le chaudron du Bronx, les Belfort déménagent. Ils traversent la baie et prennent un petit appartement dans le Queens, à Bayside, une petite ville au bord de la mer, beaucoup plus calme. À cette époque-là, Jordan est un drôle de gamin. Il ne dort jamais, ou si peu. Vous pouvez débarquer dans sa chambre à n'importe quelle heure de la nuit. Il est là, assis dans son lit, les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, on parlerait sans doute d'un hyperactif. L'été de ces saisons, le businessman montre le bout de son nez. Cet été-là, à New York, il fait très chaud. Et Jordan a une idée. Il achète deux glacières. Il les remplit de boîtes de glace, genre bâtonnets Mico, et il va les vendre sur la plage. Chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat. Il fait un carton. Et donc il embauche des copains et ils se mettent à bosser pour lui. En deux mois, il empoche 20 000 dollars. Depuis qu'il est tout petit, sa maman a un projet pour lui. Elle veut qu'il devienne dentiste. Et donc, à la rentrée suivante, Jordan intègre le collège de chirurgie dentaire de Baltimore, où le premier jour, le doyen fait son discours.
Vous devez savoir, mesdemoiselles et messieurs les étudiants, que l'âge d'or de la chirurgie dentaire est terminé. Si vous êtes ici pour faire de l'argent, alors vous n'êtes pas au bon endroit, je vous le dis.
Ah bon? Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Alors ça ne l'intéresse plus. Et donc il quitte la fac. Il n'y reviendra jamais. À partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la seule chose qu'il sache faire, vendre. Il se fait embaucher comme commercial par une boîte de surgelés. En un mois, vous entendez, en un mois, il devient le meilleur vendeur de la boîte. Et là, il va voir un copain. Il y a du fric à se faire dans la viande surgelée. J'en suis sûr, c'est garanti. Et donc, tu sais ce qu'on va faire? On va créer notre propre boîte, tous les deux. Banco. Et très vite, ils ont 26 camions de livraison. Jordan a 21 ans Et la première chose qu'il s'achète, c'est une Porsche rouge. Pour qu'on le voit, pour qu'on voit sa réussite. Bon, à côté de ça, Jordan n'est pas féru de gestion. Il oublie de payer les factures et confond résultats et bénéfices. Il finit par déposer le bilan et les huissiers viennent saisir sa Porsche rouge. Retour à la case départ. C'est un film qui va lui donner l'idée de la suite. Wall Street, d'Oliver Stone, qui raconte la vie de Gordon Gekko, un trader sans état d'âme, prêt à n'importe quoi pour amasser des dollars.
Quelqu'un m'a rappelé que j'avais dit un jour « L'avidité, c'est bien ». Apparemment, c'est devenu légal. Et j'ai peut-être passé trop de temps en prison.
Une montre et un téléphone portable.
Mais parfois, c'est le seul endroit où on peut rester sain d'esprit. En regardant dehors à travers les barreaux, on se demande « Est-ce qu'ils sont tous devenus cinglés ?»
Pour Jordan, ce film est une révélation. Il est comme un séminariste qui découvre la Bible. C'est ça qu'il va faire. Acheter et vendre des actions. Et entre deux, s'en mettre plein les fouilles. Et donc un matin de 1987, Jordan enfile un costume gris. Il a rendez-vous chez L.F. Rothschild, une banque de Manhattan, sur la 5e avenue.
Entrez !
Il n'a aucun diplôme, mais son bagou va faire le reste.
Dites-moi, monsieur Belford, donnez-moi une bonne raison de vous embaucher. Donnez-moi envie d'acheter des actions, je vous écoute.
Eh bien, tenez, j'ai là un lot d'actions d'une société qui s'appelle Crawford. J'ai des informations assez encourageantes hein, sur les investissements de cette société. Je peux vous garantir que ça va performer et vous allez gagner beaucoup d'argent. Les gains sont garantis.
Je vous fais remarquer, monsieur Belford, je vous fais remarquer que vous venez de faire quelque chose de parfaitement illégal. On ne garantit jamais un gain, jamais, c'est interdit. Néanmoins, je vous embauche.
Le lendemain, Jordan Belfort pénètre pour la première fois dans une salle de marché. Je n'oublierai jamais cette clameur, semblable au grondement d'une foule en furie qui allait changer ma vie pour toujours. C'était le cri de jeunes hommes dévorants de cupidité et d'ambition. Au début, pendant 6 mois, il doit apprendre. Il appelle les clients au téléphone et il les passe aux traders, les vrais, qui eux concluent. Les traders qui, entre nous, lui parlent mal, qui le méprisent. Peu importe, il serre les dents et finit par décrocher un diplôme de trader. Là-dessus, pas de peau, arrive le krach boursier d'octobre 1987. En 2 heures, les actions dégringolent, Wall Street est sur la paille, L.F. Rothschild fait faillite. Jordan se retrouve sans travail, mais pas longtemps. Dans le journal, il tombe sur une petite annonce. Une société qui s'appelle Investor Center recherche un courtier. Alors il postule et il est pris. Et là, il faut que je vous explique ce qu'est Investor Center. C'est une société financière qui opère non pas à la bourse, pas à Wall Street, mais sur ce qu'on appelle le marché hors cote. Elle commercialise ce qu'on appelle des penny stocks, des actions de quelques centimes ou de quelques dizaines de centimes qui portent sur de toutes petites entreprises, dont on promet aux investisseurs qu'elles vont devenir très grosses. Le premier mois, Jordan Belfort se met 38 000 dollars dans la poche. Et le suivant, 78 000 dollars. La première année, il empoche 500 000 dollars. Et comme il l'avait fait quand il vendait des surgelés, il va voir un de ses collègues. « Danny, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors arrêtons d'engraisser Investor Centers. On va créer notre propre boîte. Tu verras, on sera les rois du monde. Jordan Belfort et son ami Danny Porush créent alors une société qu'ils baptisent Stratton Oakmont. Ça pète comme nom, ça, non? Ça fait sérieux. Alors qu'ils ne sont pas du tout sérieux. Comme Investor Center, Stratton Oakmont veut vendre des actions de petites entreprises. Mais là, Jordan Belfort veut passer à la vitesse supérieure. Il ne se contentera pas de vendre à de petits investisseurs. Il veut vendre à des gros, à des riches, en leur promettant toujours plus. Leur vendre des boîtes dont personne n'a jamais entendu parler. Mais à l'époque, au début des années 90, il n'y a pas Internet. Alors allez vérifier que la société Duchemol, qui fabrique, je sais pas moi, des bonbonnes de minéral, et dont le trader au bout du fil vous dit...
Faites-moi confiance, c'est une très bonne opportunité, vraiment.
Allez vérifier que cette boîte est vraiment en plein boom. C'est impossible. Vous êtes obligé de croire le trader. Et si le trader a du bagou, vous vous faites embobiner. Les traders de Jordan et de son copain Danny ont du bagou. Ils se gardent bien d'embaucher des traders professionnels. Ils embauchent des copains, des héros de la finance. Et c'est Jordan qui leur apprend le métier. Bien. Voici un document qui s'appelle Straight Line Persuasion System. Dedans, vous trouverez listé toutes les questions que peuvent vous poser les clients. Et donc, toutes les réponses que vous devez leur faire. Par exemple, le client vous demande « Êtes-vous certain de la santé de cette entreprise ?» Eh bien, vous vous répondez « Nous sommes proches de la boîte, nous avons des informations que personne ne connaît, c'est une super opportunité. » Et vous ajoutez « J'ai seulement 500 actions à vendre et ça va partir très vite. » Ok ? Et si le gars vous dit « Il faut que j'en parle à ma femme ?» Vous lui répondez « Pourquoi est-ce que vous devez en parler à votre femme ?» Vous n'êtes pas celui qui prend la décision? De quoi avez-vous peur? C'est le genre d'opportunité que votre femme aimerait vous voir saisir. Ok? Et ça cartonne. Un an plus tard, Stratton Oakmont déménage pour des bureaux beaucoup plus grands. Et maintenant, Jordan et son ami emploient plus de 1000 traders. Des gamins d'à peine 20 ans, sortis du lycée. Belfort les appelle les Strattoniens. Aucun d'entre eux n'a fait d'école de finance, bien sûr. Pas besoin. Il n'y a qu'à appliquer la méthode du chef. Tous les matins, Jordan grimpe sur une petite estrade au milieu de la salle des marchés. Et il harangue ses troupes. Et eux, ils boivent ses mots. C'est un gourou. Évidemment, on est à la fin des années 80 et au tout début des années 90, tout ce petit monde ne carbure pas aux fraises Tagada et aux Coca Zéro. Je préfère vous le dire. Chez Stratton Oakmont, tout le monde a le nez dans la poudre. Les types se font des rails de coke devant leur ordinateur. Ou alors ils gobent des cachetons de Mandrax. C'est la drogue à la mode. Les dealers viennent livrer directement dans les bureaux. Les gars sont perchés du matin au soir. Et Jordan, le premier, il écrira dans ses mémoires. Quand je suis arrivé à Wall Street, je connaissais rien aux drogues. J'en prenais jamais. Mais au bout de quelques temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt dedans et on le retire tout de suite parce que c'est trop chaud. Et 5 minutes plus tard, on est complètement dedans et on sent plus rien. Chez Stratton Oakmont, on se drogue et on baise dans tous les coins. Le mardi, Belfort fait même venir des prostituées. Il met en concurrence les traders. Celui qui vend le plus d'actions gagne la fille. À un moment donné, ça part tellement en sucette que Jordan Belfort doit rédiger une circulaire qui interdit aux employés de faire l'amour dans les bureaux entre 8h du matin et 19h. De toute façon, pour baiser, il reste les fêtes. Belfort saisit la moindre occasion pour organiser des fêtes titanesques, des orgies pour ses employés.
On va être une légende de Wall Street, les mecs! On va tout faire pour ça, croyez-moi! Passez une bonne soirée!
Lui, Jordan, se déplace désormais en hélicoptère. Et il vient de s'acheter un yacht de 50 mètres qu'il a baptisé du nom de sa femme, Nadine, qui bien sûr est un top modèle, une Britannique. Il est riche. Il veut que ça se sache. Mais comment fait-il pour gagner autant d'argent? Vous vous en doutez, il y a une embrouille. Et il y en a une. Jordan Belfort pratique une technique qui s'appelle « pump and dump ». Pump comme gonfler et dump comme dégonfler. C'est un petit jeu qui est absolument interdit par le gendarme de la bourse américaine. Je vous explique. En premier lieu, il s'agit de gonfler artificiellement la valeur d'une société. Juste avant, à travers des sociétés écrans tenues par des amis, Belfort achète des actions de cette entreprise. Par exemple, un créateur de chaussures. Admettons 5 dollars l'action. Il en achète jusqu'à posséder directement un tiers ou la moitié de l'entreprise. Notez au passage que le fait que toutes ces actions soient en vente n'est pas un signe que la boîte est en très bonne forme. Là-dessus, ces traders entrent en action. Ils appellent leurs clients. Ah oui, je vous conseille d'en acheter. C'est une entreprise très prometteuse. Ils vont faire un gros coup dans les mois qui viennent. C'est un tuyau que je vous donne. Oui, allez-y, c'est sans risque. Oui, 5 dollars l'action. Voilà. Belfort appelle ça mettre du rouge à lèvres sur le cochon. Les clients achètent des actions par centaines de milliers. Et l'effet est immédiat. Beaucoup d'acheteurs, peu d'actions. Le cours de l'action flambe. L'action que Belfort a acheté 5 dollars en vaut 10, puis 15, puis 20 dollars. Et là, une fois que le titre est artificiellement gonflé comme ça, d'un coup, en une heure, il donne l'ordre à ses traders de vendre toutes ses actions à lui. Et lui, empoche 2 fois, 3 fois, 4 fois la mise de départ. En revanche, ses clients, ils perdent tout. Inversion de la vapeur. Beaucoup d'offres, peu d'acheteurs. La valeur de l'action s'effondre. Pump and dump. Gonflé, dégonflé. Les braves couillons qui avaient placé toutes leurs économies dans le rêve de gains mirifiques sont ruinés. Et lui, il est plein aux as. Et quand c'est fini, il recommence. Et assez logiquement à ce petit jeu, il finit par se faire pincer. Parce que le type qui avait misé 100 000 dollars ou 200 000 dollars, toutes ses économies, il l'a un peu mauvaise, voyez-vous. À partir de 1992, Jordan Belfort a le gendarme de la bourse sur le dos. 2 agents de la SEC, la commission de sécurité des échanges de la bourse, s'installent chez lui, chez Stratton Oakmont, dans un bureau. Et ils réclament toutes les pièces relatives à l'activité de la compagnie. Et pendant 2 ans, ils épluchent les comptes. L'autre, qui n'est jamais avare de provocation, va jusqu'à leur couper le chauffage dans le bureau. Il espère les décourager. Évidemment, ils ont trouvé quelque chose. Évidemment, ça n'a pas été facile. Mais ils ont trouvé des preuves concrètes de ces malversations. Alors ils le convoquent et ils lui présentent l'addition. Une amende de 2 millions de dollars et surtout le retrait de sa licence de trader. Jordan Belfort sent que le vent est en train de tourner. Il décide alors d'aller planquer sa fortune hors des États-Unis, en Suisse. C'est un épisode rocambolesque de cette histoire. Parce que il ne fait pas un virement de sa fortune sur un compte suisse. Il le fait transporter en liquide dans des valises à double fond par des passeurs. Il a même une idée géniale. Il leur scotche les liasses directement sur le corps, sur le torse et sur les cuisses. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en plus du gendarme de la bourse, il a le FBI sur le dos. Et que les banques suisses, à la fin des années 90, ne sont plus les grandes muettes qu'elles étaient. La Suisse balance la liste de ses comptes au FBI. C'est fini, Jordan. C'est fini. Et d'ailleurs, il l'a compris, quand il est arrêté, il plaide coupable, dès le premier interrogatoire, pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire les fraudes commises par Stretton Oakmont et l'évasion fiscale en Suisse. En principe, il va prendre cher. Des années et des années de prison. On parle d'au moins 20 ans. Sauf s'il collabore. Monsieur Belfort, il nous faut la liste de tous vos complices. Tous, sans exception. Tous ceux qui savaient et qui vous ont laissé faire. Il les balance, tous. Et il est condamné à 4 ans de prison seulement. Et rassurez-vous, il n'en fera qu'un peu plus de 2. Bien sûr, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, son yacht, son hélicoptère, jusqu'au dernier dollar sur ses comptes en banque. Et en plus, maintenant, il est censé rembourser, jusqu'à la fin de ses jours, tous ces gens qu'il a grugés, pour un montant total de 110 millions de dollars. Sauf que le juge a une brillante idée. Monsieur Belfort, je suppose que si je décide de saisir tous vos revenus jusqu'à la fin de votre vie, pour rembourser les victimes, vous ne retravaillerez pas, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je décide, car je sais que vous aimez l'argent. La justice saisira 50% de vos revenus jusqu'à ce que vous ayez remboursé 110 millions de dollars. Le juge a eu bien raison, car il va rebondir, évidemment. Pour commencer, dès sa sortie de prison, Jordan Belfort écrit ses mémoires. Une version évidemment édulcorée, mythifiée de sa grande arnaque. Le livre s'appelle « Le loup de Wall Street ». Il sort en 2007. C'est un carton dans le monde entier. Et ensuite, ce livre est adapté au cinéma par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio dans son rôle. Et au passage, il empoche 1 million de dollars de droits d'adaptation. Et puis, depuis, il donne des conférences pour vendre sa méthode. Et il se fait payer 30 000 dollars de l'heure. Les gens sont assez couillons pour le payer, pour qu'il leur raconte comment il les a grugés. Magie de l'Amérique.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.